Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Quelles sont les news du cloud et du DevOps en ce mois de mai 2022? Une API pour évaluer notre impact sur l'environnement, les suites de la panne Atlassian, plein d'autres sujets encore. C'est ce qu'on va voir dans cet épisode de podcast.
Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti!
Bienvenue à toi, cher compagnon, dans Actu DevOps, ton émission de veille cloud et DevOps mensuelle. Et comme d'habitude, reste bien jusqu'à la fin pour découvrir notre sélection d'outils. Mais avant de commencer, tu le sais, si le podcast te plaît, tu peux aussi nous soutenir sur Liberapec. Il y a le lien en description. Tu peux aussi t'abonner et nous laisser un commentaire. À ce propos, j'aurais bien aimé vous lire un commentaire, mais faut dire que vous en laissez pas beaucoup. Ou alors, je sais pas vraiment où les chercher. Allez savoir, c'est peut-être possible aussi. C'est pour cela que, pour nous motiver, tous les quatre et tous ceux qui ne sont pas là, je vais vous demander de nous laisser un commentaire sur les applications de podcast, mais pas juste un, il faut nous inonder de commentaires de partout. Dites-nous aussi où vous les laissez, comme ça je pourrai aller les voir. Je sais que vous en laissez sur YouTube. Avec moi, ce soir, pour parler d'actu, j'ai Erwan. Bonsoir Erwan.
Bonsoir.
J'ai aussi Damir. Bonsoir Damir.
Bonsoir à toutes et tous.
Et enfin René. Bonsoir René.
Bonsoir.
Alors, le mois dernier, on a parlé justement d'un sujet, on a parlé d'Atlassian. D'ailleurs, Atlassian m'a écrit. Et Erwan va revenir sur le sujet parce qu'on a les suites de la panne, puisque à l'époque où on enregistrait, la panne n'était pas terminée. Et je laisse la parole à Erwan du coup.
Exactement. Donc le mois passé, c'est Damir qui évoquait donc cet incident assez marquant chez Atlassian où plusieurs stacks clients avaient totalement disparu. En tout cas, au moment où on en parlait, et c'était un petit peu le foutoir. Donc c'était début avril, il y avait environ 880 stacks de chez Atlassian Cloud qui ont disparu. Donc quand on dit disparu, c'est que l'accès à Confluence, l'accès à Jira ou les autres outils collaboratifs qui sont fournis par Atlassian étaient totalement inaccessibles. Quand c'était restauré, il n'y avait pas encore les données. Et en fait, c'est une panne qui est assez marquante parce que le temps de résolution et de reprise d'activité a duré en gros 14 jours. C'est le dernier client à être restauré, c'était 14 jours après l'incident. Et donc, comme c'est un incident qui n'est quand même pas anodin, Atlassian a publié un post-mortem. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu leur façon de communiquer pendant cet incident, quelle est la root cause de tout ça, mais aussi, du coup, essayer de mieux comprendre ce qui se passe, puisque Atlassian fait partie quand même des boîtes de soft assez sérieuses, donc avec plutôt une bonne image sur toutes les bonnes pratiques en termes de sécu, DevOps, etc. Donc c'est toujours intéressant à lire. Donc concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Très vite, quand il y a eu l'incident, donc ils ont eu tout un tas d'alertes de leur côté, très vite, quand il y a eu l'incident, ils ont communiqué pour expliquer que ce n'était pas une attaque. Donc ça, c'est quand même un truc assez important. Ils ont communiqué publiquement en disant que ce n'est pas une attaque, il n'y a pas de fuite de données, il n'y a pas eu d'accès non autorisé qu'on leakait ou quoi que ce soit. Mais par contre, après, il n'y a plus vraiment de communication. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui avaient vraiment plus accès à leur wiki, donc on peut imaginer, je ne sais pas si dans vos entreprises respectives vous utilisez Confluence ou Jira, qui sont quand même des outils assez populaires, ne plus y avoir accès, ça peut mettre quand même pas mal de gens au chômage technique. Et donc vraiment, il n'y a eu plus rien. La suite de la communication, alors que donc on a dit un peu plus de 800 stacks étaient toujours chaos, la suite de la communication a eu lieu 9 jours après. Donc, c'est quand même pas anodin. Et c'était un mail générique pour dire, le problème étant, on est en train de travailler sur le problème, vous inquiétez pas, tout est sous contrôle, entre guillemets. Donc, alors j'ai cité Confluence et Jira, mais il y avait aussi d'autres outils. Et typiquement, le truc un peu cocasse, c'est que Ops Genie, qui est un des outils fournis par Atlassian pour faire du monitoring, bah, il était cassé aussi. Donc, il y a des gens qui étaient même aveugles sur leur infrastructure ou leur monitoring pendant cet incident. Et donc, après un silence assez long, donc au bout de 9 jours, ils ont communiqué. Et donc, dans le communiqué, qu'est-ce qu'on apprend ? Donc, on savait déjà que ce n'était pas une intrusion ou quoi que ce soit, mais dans le communiqué, de façon très transparente, ils expliquent que bon, bah, c'est un script de maintenance qui est à l'origine de l'incident. Parce que en fait, il a fait des choses qui étaient pas prévues. Et Atlassian, ce qui est intéressant, c'est qu'ils reconnaissent deux points sur lesquels ils ont pas, où en fait l'application de ce script a pas été bonne. Il parle d'un point, d'un manque de communication. C'est en gros, on leur a dit oui, il faudrait faire du cleaning et effacer tel module de toutes les stacks. Et bah, les gars, ils ont dit OK. L'équipe demandeuse a fait cette demande-là. L'équipe qui réalise la maintenance là-dessus a réalisé le script qui va bien. Et l'équipe demandeuse a fourni une liste d'ID qui était censée représenter les fameux modules à supprimer. Sauf que parmi ces ID, il y avait des ID de stack. Et on en vient au deuxième point sur lequel... Donc déjà, ça veut dire que ce qui a été fourni en entrée était pas bon. Donc déjà, on part sur... donc on n'est plus sur les specs qui étaient fournis. Déjà, on est un peu hors clou. Et le problème d'après, c'est qu'en gros, leur petit outil qui clean, qui fait du cleaning, bah en fait, qu'on lui file un ID d'une stack ou un ID d'un module, il s'est effacé. Donc forcément, vous faites vite le rapprochement. Si dans la liste des ID de modules, bah, il y avait des ID de stack, forcément, on peut les dropper. Alors, vous allez dire, bah oui, mais ils ne testent pas avant. Si, avant de faire tout ça, il y a eu les reviews du code du fameux script. Ils ont vérifié une partie des ID. Forcément, je ne sais pas combien il y en avait, mais bah, a priori, ils n'ont pas tout vérifié. Ils ont fait tourner le script dans un espèce d'environnement staging, etc. Mais en fait, on suppose que les... Ça, c'est pas très très clair dans le report, mais on suppose que les fameuses ID incriminées, ils n'avaient pas de conséquences, on va dire, dans cet environnement de staging. Et puis, au moment où ils ont lancé en prod, ils expliquent qu'ils ont lancé par bench de 30 sites. Donc, ils ont fait plusieurs loops pour voir que ça se passait bien. Et effectivement, ça s'est bien passé. Et on peut imaginer que les fameuses ID où il y avait problème, ils étaient plus loin dans la liste. Et donc, du coup, c'est bien plus tard. C'est quand ils se sont dit, OK, tout est OK, on peut lancer sur l'intégralité que ça a pété. Et ensuite, comme on le disait, il y a à peu près 800 stacks totalement KO. Atlassian communique sur le fait que, en vrai, c'est 400, c'est vraiment 400 instances de prod. Les autres, c'était soit des trucs de test, des comptes de POC ou je sais pas quoi. Donc, c'est pas très grave. Mais il y a un autre truc sur lequel ils communiquent sur le fait qu'ils ont pas été bons, mais ils donnent pas beaucoup de précision. C'est sur le temps de restauration. Ils expliquent que, en gros, on comprend juste que le temps de restauration, leur mécanisme de restauration, il ne passe pas à l'échelle de « je dois restaurer 400 stacks », en gros. Je schématise, mais c'est ce qu'on comprend du retour. C'est-à-dire que ça marche très bien pour... c'est automatisé pour une stack, visiblement, mais le faire sur 400, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas de truc pour lancer ça ou monitorer ça comme il faut. Du coup, ils ont expliqué qu'ils mettaient en place trois axes d'amélioration. Donc éviter d'avoir, en gros, d'avoir une route commune slash clean pour... qui prend quel que soit l'ID pour dropper des choses. Donc en gros, il va y avoir un slash clean module et un slash clean stack. Je schématise, mais c'est un peu l'idée qui est derrière ça, avec un niveau de validation et de protection important. Sous-entendu, supprimer une stack, ça ne doit pas être quelque chose d'anodin, ça doit être quelque chose validé à plusieurs niveaux. Donc pour éviter ça, ils expliquent qu'ils vont mettre plus d'automatisation sur leur système de récupération de données, et tout, et parce qu'ils disent très ouvertement que ça passe pas à l'échelle, et ils expliquent aussi que ils sont conscients qu'ils ont merdé sur la communication, que énormément de clients se sont retrouvés vraiment sans réponse, mais c'est-à-dire il y a même pas un humain qui leur a dit ok, vous êtes en galère depuis 5 jours ou plus, on est dessus. Non, ils ont eu à chaque fois des mails génériques, et donc du coup ils vont mettre en place des espèces de cellules de crise avec un support humain spécifique dédié pour pouvoir interagir avec les clients impactés et les rassurer et les accompagner dans cet incident. Moi, ce que je retiens de ça, et vous allez me dire après ce que vous partagez ou pas, c'est que c'est quand même un incident qui est quand même relativement important, qui a eu un impact business assez fort, parce que j'ai pu lire sur tous ces sites de DSI, etc., que des boîtes quand même assez grosses de 2000 personnes ont été impactées. Donc imaginez une boîte dont toute la knowledge base est sur Confluence, ça peut être un peu rude. Mais en vrai, est-ce que ça va vraiment impacter le business de Atlassian? Y a quand même des chances que pas vraiment. Ça va écorcher leur image, et probablement ça va s'atténuer assez vite. Mais le message que j'avais lu de tout un tas de DSI là, qui parlaient de ça, c'est migrer notre contenu de Confluence ou de Jira ailleurs, c'est pénible, on va pas trop le faire. Donc ce qui est et surtout moi ce qui me fait rire, c'est que c'est ça que je trouve hyper cocasse, et Atlassian a droppé il y a pas très longtemps le support du on-premise, sous-entendu que leur stack en cloud était hyper fiable, etc. Et malheureusement, il y a eu un incident. Mais après, bon, je charrie, bien entendu, c'est du troll, mais c'est quand même intéressant de garder ça en tête. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un problème typique qu'on peut rencontrer quand on travaille dans ces métiers. Et du coup, savoir aussi que même les grands ont ce genre de problème, quelquefois, ça permet d'avoir un peu d'humilité, de prendre un peu de recul sur ce qu'on fait et tout. Je vois Damien sourire.
Moi, pour donner un peu de contexte, c'est vrai que j'ai pas été impacté par la panne, parce que nous, on est encore justement sur l'ancienne offre qu'on doit migrer qui est en on-prem. Mais c'est vrai que je travaillais sur un infogéreur pendant longtemps, et quand il y avait des gros incidents, en fait, le plus dur, c'est vraiment de gérer une communication dans laquelle on arrive à en même temps être rassurant, en même temps expliquer ce qui se passe pour que tout le monde comprenne, et en même temps pas dire des conneries. C'est-à-dire que quand t'as un incident, tu sais pas toujours exactement l'origine du problème, tu sais pas forcément combien de temps ça va être restauré. Et c'est un exercice qui est pas simple. J'ai connu des périodes où t'as les clients qui t'appellent, et il faut forcément que quelqu'un de technique réponde et que tu essaies d'expliquer gentiment que on essaie de faire notre maximum, mais c'est compliqué. Et le client, lui, derrière, il perd de l'argent et il paye pour un service, donc il est un peu chafouin, on va dire ça comme ça. Donc c'est un exercice qui est assez difficile, et surtout quand plus l'entreprise est grande, plus je pense que c'est assez difficile. C'est pour ça, à mon avis, je sais pas trop comment ils sont pris, mais moi je trouve ça toujours intéressant dans le War Room d'avoir une personne qui est vraiment dédiée, si possible une personne un peu technique, voire même totalement technique, qui est dédiée à gérer la communication, les infos qui sortent, pour communiquer clairement sur les aspects techniques et que la com derrière puisse se recommuniquer. Mais pour moi, c'est le gros fail. Les autres fails, c'est des problèmes, mais c'est des problèmes mineurs, en fait. Comme tu dis, ça peut arriver tout le temps. La communication, c'est plus compliqué, quoi, pour une boîte surtout de cette taille. Après, je pense que là, ils vont avoir un gros impact au niveau commercial, même si les gens, ils vont y rester, parce qu'on va pas se cacher, quand on est sur Jira, c'est un peu comme tout, hein. Là, c'est une histoire de vendor locking qui existe même avec les solutions open source. On est intégré dessus, on a les plugins sur la CI, etc. Donc souvent, la migration, elle se fait pas en un claquement de doigts. Donc c'est quelque chose qui se réfléchit et qui se négocie. Donc je pense pas qu'ils vont perdre tant de clients, mais tu vois, typiquement, la fin de l'offre on-premise, je me demande si ça va pas donner des billes à des grosses boîtes pour non, mais c'est on-prem ou on part. Donc à voir ce que ça donnait. Mais effectivement, encore une fois, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais le plus important dans les incidents, c'est de communiquer clairement. À mon sens, je préfère même des fois dire on estime que dans le meilleur des cas, ce sera ça. dans le pire des cas, on sera ça, de donner des scénarios, mais de communiquer franchement. Sur le coup, bah, les gens vont être déçus, certains vont un peu vous cracher dessus. Je pense sur Twitter, aujourd'hui, vous allez avoir des tweets un peu incendiaires, mais je pense qu'il vaut mieux ça plutôt que pas communiquer. Et là, le mail automatique, je sens le truc de la com qui se prenait des messages en MP en mode « mais qu'est-ce que vous foutez, bordel ?» et qui se sont dit bah, « on envoie un mail automatique pour dire qu'on est dessus, quoi. » Mais c'est un peu triste qu'il n'y ait pas eu une autre réaction, je trouve. Surtout si on attend aussi long.
Je suis parfaitement d'accord avec Damir. Je pense que la transparence, c'est une des valeurs qu'on doit travailler quand on exploite un SaaS. Et la communication, bah, elle doit être claire, même si c'est pour dire, bah, pour l'instant, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais on est dessus. Après, c'est toujours dur de communiquer sur ses erreurs. Ça demande quand même de l'abnégation. Et puis, c'est dur d'admettre qu'on s'est planté. Même si parfois bah, on s'est planté dans les plans de largeur. Donc c'est d'autant plus important quand les gens le font. Et d'ailleurs, on déconnait tout à l'heure avec Damir avant l'épisode de podcast sur il n'y avait pas de nouveaux trucs qui avaient brûlé chez OVH. Mais moi, je me souviens que quand justement le data center a brûlé, Octave, qui est le président directeur général d'OVH, il a communiqué. Très frontalement sur Twitter.
Ça, on a déjà parlé, mais c'est une manière de communiquer. Mais moi, pour moi, il y avait un gros problème, c'est que c'est pas une personne qui, en plus, a son compte perso et qui bloque certaines personnes sur Twitter de communiquer sur ces événements. Mais c'est encore une autre histoire. Je pense qu'il faut une communication. En fait, c'est bien d'avoir plusieurs niveaux de communication, d'aller vers vos clients et dire les trucs pour tenir au courant, surtout des délais de SLA, etc., pour qu'eux puissent se projeter au niveau business. Ouais. Et après, pour ceux qui veulent pousser un peu le truc, faire derrière du live tweet ou des trucs comme ça, pas forcément le pousser, mais le faire pour que les gens qui sont intéressés, ils tombent dessus. C'est intéressant d'avoir une double approche au niveau de la com.
Ouais, il y a la com interne vers tes clients. Ça, c'est la première chose que tu dois faire. La com publique externe via ton blog et la com personnelle. Là, je parlais plus de com personnelle qu'Octave faisait. Et je crois qu'ils avaient des articles de blog en parallèle en plus. Mais bon, je ne sais pas, René, est-ce que tu en penses, toi ?
Ouais, non, ben, globalement, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Après. Ce que je trouve intéressant, c'est ce qu'Erwan disait, c'est que ben, quand même, ils ont reconnu dans ce qu'ils ont expliqué, qu'ils ont failli à certains domaines. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et puis ben, après, ça peut-être, enfin moi, ça me fait poser un peu des questions sur. Je ne suis pas confronté à ce type de décision, mais quand on choisit des entreprises aussi grosses et aussi importantes. Est-ce que parfois il ne vaut pas mieux choisir des entreprises plus petites avec un support un peu plus à taille humaine parce que voilà, ces grosses entreprises elles ont beaucoup de clients, du coup quand il y a un gros incident comme ça, bah, on est un client perdu dans la masse et pour avoir des réponses de ces gros acteurs, je pense que c'est jamais super simple et voilà, peut-être que parfois choisir un acteur un peu plus petit avec on va dire une approche un peu plus, enfin moins la grosse usine entre guillemets, peut-être que ça peut être pas mal aussi.
Alors moi je vais vous parler de mesures d'impact dans l'environnement de notre très cher cloud. Donc le groupe de travail Boa Vista vient de publier une API permettant d'interroger leur base de données. En effet, ils collectent et maintiennent une base de données d'empreintes énergétiques de serveurs et de cloud. Côté serveur, on a les données d'Apple, Dell, HP, Lenovo, Lexmark ou encore Seagate. Et côté cloud, seul Amazon Web Services y est pour le moment. Espérons qu'OVH, Scaleway ou Azure puissent faire leur apparition dans les prochains mois. Alors, pour l'instant, ils statent deux phases du cycle de vie, la fabrication et l'usage. Et qu'est-ce qu'elle donne cette API ? C'est une API REST en fait qui va interroger les données libres qui est maintenue par Boa Vista et fidèle à leur valeur transparence, en fait le code est fourni sur GitHub en licence libre type AGPL. L'objectif est de permettre l'intégration et l'industrialisation de la démarche de mesure de l'impact environnemental dans les équipements, les systèmes et les services numériques. Cette API se veut une interface en fait aux données et aux méthodes développées par le collectif. Alors, ils nous fournissent des cas d'usage notamment, par exemple, pour les personnes qui veulent connaître l'impact d'un serveur à partir de sa configuration et de son usage, ou alors l'impact d'une instance cloud à partir de son type et de son usage. Mais ils nous disent aussi ce qu'ils ne souhaitent pas traiter, comme par exemple connaître l'impact d'un système d'information à partir de son inventaire, ou l'impact d'un service à partir de sa modélisation, ou enfin connaître l'impact des équipements bureautiques. A priori, ils veulent pas aller par là. Le code est fourni avec une documentation et une instance de démo, puisqu'on peut installer l'API sur nos propres serveurs, surtout quand on a des gros besoins. Donc après la sortie de ce MVP, ils ont déjà pas mal de pain sur la planche, car ils ont en projet d'ajouter de nouveaux composants comme les GPU qui permettraient d'adresser le cas d'usage du minage de blockchain, d'IA ou de calcul haute performance, ajouter des nouveaux équipements comme les écrans et les terminaux utilisateurs, ajouter une couche système qui permettrait de mesurer les impacts de plusieurs équipements ou une couche service qui permettrait de mesurer l'impact d'un service numérique. Il y a aussi les étapes de cycle de vie qu'ils veulent ajouter, comme la gestion des déchets, le recyclage, le réemploi ou alors le transport des composants. Et puis enfin, ils veulent ajouter de nouveaux critères d'impact comme, là je ne sais pas ce que c'est, mais la radiation ionisante, l'impact sur l'eau et l'écotoxicité. Enfin, je vais relayer leur appel, puisque si vous souhaitez contribuer, le plus simple c'est de prendre contact avec eux ou alors d'aller participer directement sur GitHub. Alors, je ne sais pas si vous aviez entendu parler de Boa Vista. Je crois qu'on en a déjà parlé la dernière fois dans le dernier Actu DevOps.
Ouais, je pense que j'en ai parlé. Et puis, on a un contributeur qui bosse beaucoup avec eux. C'est Benoît.
En effet, Benoît, ça fait un moment qu'on n'a pas vu. Benoît, si tu nous écoutes, tu peux revenir nous voir.
Il y aura plein de choses à raconter, je suppose. Effectivement, on a déjà parlé justement la dernière fois. Assez rapidement, il me semble, dans les petites news de fin. C'est intéressant et bah, je crois qu'après, on avait déjà pas mal parlé du sujet. Moi, je pense vraiment qu'à terme, les fournisseurs cloud vont vraiment intégrer ça de manière transparente et vont potentiellement même l'ajouter à la facture, en fait. Et ça sera une case à côté de la facture, une case d'empreinte. Ça sera assez intéressant comme exercice et voir si ça influe ou pas les gens. Honnêtement, je pense pas, mais ce sera un exercice intéressant.
Ouais, c'est vraiment un peu ce qu'on évoquait la dernière fois, c'est-à-dire que je pense que c'est une information qui devient de plus en plus recherchée par les boîtes en général, parce que c'est aussi un moyen de valoriser ou pas la façon d'utiliser son IT et tout. Mais moi, j'étais plus sceptique sur le fait que on arrive à pousser ça justement auprès des providers et tout. J'espère que ça viendra, comme le décrivait Damien, mais je sais pas, comme j'ai l'impression que ça va, le switch de mentalité sur le sujet est pas évident, j'ai peur que ça soit quelque chose qui arrive, mais dans très 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 longtemps, quoi.
Juste pour dire qu'en plus, de là à ce que ce soit une API standard, je pense que chacun va y aller de son format, donc ça va être compliqué.
Alors, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il se base sur OpenAPI, qui est aussi une API libre. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est justement le fait de pouvoir avoir des statistiques. Alors, certes, pour l'instant, ça se base sur des données et pas sur des statistiques réelles d'utilisation, mais ça permet d'avoir une estimation de ce qui se passe par rapport à ce qu'on leur a remonté, puisque, a priori, ils travaillent avec toutes ces marques-là. Et moi, je pense en effet qu'à l'avenir, ce sera intéressant de se poser des questions sur l'impact qu'a nos services en ligne, quitte à payer un peu plus cher nos services en ligne pour que ce soit réduit. Nous, je sais qu'on essaie de faire très attention à ça avec notre service et on n'a pas de statistiques ou quoi. Et on sera assez preneur. Et par contre, si on met en place ce genre de choses, ça veut dire qu'il faut évidemment le travailler. Et même éco-concevoir des infrastructures, je trouve, ça prend plus de temps que de les concevoir tout court. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à l'éco-conception d'infrastructures. Qu'est-ce qu'on peut faire en plus pour éco-concevoir une infrastructure? Et le temps que ça prend à mettre en place, à mettre en place les scénarios et ce genre de choses, c'est forcément des trucs en plus.
Ben alors, moi, j'ai déjà un peu pensé pour pas mal de choses. Après, c'est quelque chose qui est ultra compliqué, en fait. Parce que déjà, il y a beaucoup de biais, il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Moi, je vais pas partir sur les fameuses histoires d'estimation de poids d'un email qui sont juste délirantes en termes d'empreinte carbone. Mais c'est très dur d'avoir des vraies estimations qui soient valables et qui soient valables dans tous les cas. Et là, en plus, moi, si on part du cloud, il y a une sorte d'abstraction. Mais c'est vrai que si on prend l'exemple, si on est son propre fournisseur de services, il y a toujours plein de choses à partir de quand on remplace nos serveurs pour les rendre moins énergivores, qu'est-ce qu'on fait des anciens, est-ce qu'on les garde, est-ce qu'on essaye de... Voilà, c'est plein de questions comme ça qui peuvent se poser aussi, sans parler après des problématiques de data center et tout, sur lesquelles on avait déjà fait un épisode, on a eu l'occasion de visiter le data center de Scaleway, je vous invite à l'écouter, qui était justement super intéressant aussi de ce point de vue-là. Mais c'est vrai que dans tous les cas, c'est quelque chose qui est déjà extrêmement complexe dans le domaine, et pour l'entreprise, il n'a pas forcément de valeur ajoutée niveau business, donc c'est pas toujours simple à justifier, on va pas se mentir. Surtout que on a déjà du mal des fois à justifier, on va dire, les choses classiques du genre d'avoir des tests propres, de la documentation propre et tout ça. Donc c'est vrai que souvent, c'est vraiment la dernière des dernières des dernières roues du carrosse. Espérons que dans l'avenir, il y ait des moyens de pousser un peu les priorités là-dessus et qu'il y ait des vrais moyens d'agir sur cette empreinte.
Ouais, moi, je rajouterais juste qu'aujourd'hui, j'ai jamais eu l'occasion, et même dans les discussions que j'ai eues au cours de ma carrière, de vraiment prendre ce paramètre en considération quand on mettait en place des infras. Par contre, l'argument, le vrai levier, c'est la thune. Et donc, si aujourd'hui, avec les ressources plus élastiques, en disant j'ai pas beaucoup de trafic, donc je mets que deux machines, je retombe mon cluster à deux machines, par exemple, quelque part, c'est sans faire de greenwashing, mais c'est un peu on adapte l'infrastructure vraiment uniquement aux besoins, et donc du coup ça veut dire que tu t'as plus de ressources qui sont provisionnées pour rien. Ça, c'est déjà un pas là-dessus, mais en fait on fait pas ça avec cette optique de écologique. On fait ça essentiellement pour les sous, quoi. Donc, c'est pour ça que je reste assez sceptique sur tout ça, même si je trouve le sujet intéressant et bien, mais je sais pas. René, toi, tu as eu l'occasion de prendre ça en considération ?
Non, moi, j'ai entendu plusieurs conférences sur le sujet, donc voilà, je trouve ça intéressant, mais non, après, comme tu le dis, je pense qu'aujourd'hui, c'était pas dans les priorités des clients que j'ai pu avoir. Et je souhaite que ça le devienne à plus ou moins long, assez rapidement, mais comme toi, voilà, il va falloir que pas mal de choses changent et que les gens comprennent bien le problème, etc. Et
c'est pas gagné. Et après, je pense vraiment qu'il y a une, comme Erwan le disait, il y a un axe d'amélioration par rapport aux économies. Qui va se démocratiser, qui se démocratise déjà. Et si je prends un exemple très simple, c'est que AWS, pour optimiser l'utilisation de ses serveurs et pas devoir étaler sur trop de serveurs avec des serveurs qui tournent qu'à moitié, ils ont créé une option dans EC2 qui est Spot, où c'est un peu plus contraignant pour vous, mais vous payez moins cher et en échange, vous avez des instances qui vont être temporaires, mais qui vont permettre de remplir en fait des trous, comme un Tetris, hein, va permettre de remplir les petites cases pour utiliser au maximum des machines. Donc ça, c'est vraiment un exemple typique de comment on peut un peu aider, on va optimiser l'infrastructure sous-jacente par, on va dire, la carotte de la facture derrière. Et là, on pourrait même aller plus loin, et je fais une projection à ce que j'ai dit tout à l'heure. Imaginez que dans votre facture, vous ayez la fameuse estimation d'empreinte carbone qui puisse directement être liée, potentiellement jouer un peu sur votre facture. Mais après, là, je pars très très loin.
Ben nous, moi, je réfléchis beaucoup à quelque chose. Typiquement, nous, on a sur Frogit, on a trois environnements. On a le staging, enfin, on en a quatre. On a la dev, mais qui est un laboratoire qui est sur un de nos serveurs à Rennes. On a le staging, la pré-prod et la prod qui sont chez Scaleway. Et honnêtement, la pré-prod, c'est probablement l'environnement dont on a le moins besoin. Et en plus, il est un peu plus gros que celui de staging. Et je pense très fortement à l'automatiser dans le sens où nous, comme tout est tout est créé as code et tout est déployé as code, on pourrait très bien, dans la pipeline qui déploie la pré-prod, allumer toute la pré-prod, déployer notre mise à jour. Et quand, en fait, on va déployer en production, bah, hop, on va arrêter à nouveau la pré-prod jusqu'à peut-être dans une semaine, deux semaines, trois semaines, je ne sais pas. Et ça pourrait être totalement automatisé. Et ça, j'y réfléchis très fortement, mais ça demande du temps pour tout coder, tout ça.
Et pour l'instant, vous arrêtez juste du coup la nuit et les week-ends ?
Pour l'instant, on n'a même pas codé l'arrêt. On arrête. Moi, je l'arrête de temps en temps quand on n'en a vraiment pas besoin, mais manuellement.
Ok, ça c'est... Encore un des petits trucs qui m'embête chez Scaleway, c'est typiquement chez AWS, c'est une option à ajouter, quoi. C'est une ligne de code.
Ouais, la nuit et les week-ends, ce serait bien qu'on le fasse sur tous nos environnements hors production. Et d'ailleurs, moi, je m'étonne qu'il n'y ait pas une option dans les cloud providers, en effet, où on puisse avoir des plannings où tu dis, bah voilà, tel truc, tu les éteins automatiquement à telle heure.
Chez AWS, sur les EC2, tu peux le faire nativement. C'est juste dans l'auto-scaling group. Tu dis à telle heure, je veux tant d'instances automatiques et forcées, telle heure, j'en veux zéro pendant tant de temps, etc. Mais nous, quand on faisait du stop hors moment ouvert, excusez-moi, on se disait, on éteint, c'est généralement c'est 8h, 20h, les horaires classiques, on passe tous les auto-scaling à zéro. Et automatiquement, et pareil pour le week-end, et si possible, les jours fériés, c'était plus rare, généralement c'était gérer les cas exotiques avec des crônes, des choses comme ça, mais autrement, c'est vraiment dans ton scanning, tu peux faire ce que tu veux, et même ta prod, tu peux forcer à ce qu'il y ait moins d'instances par défaut la nuit, etc., tu peux faire des optimisations là-dessus qui sont assez propres, et c'est le genre de petites choses qui me... Alors, je diverge un peu du sujet, mais c'est toujours le genre de petits détails qui sont agréables à l'utilisation et qui me manquent quand je vais sur un autre cloud provider.
Faut dire qu'ils ont tellement d'avance, mais justement, ce serait bien que Scaleway nous entende penser au planning d'arrêt des instances et autres. Très cher auditeur, si tu écoutes ce podcast et que tu l'apprécies, je t'encourage à le partager, puisque si tu ne le sais pas, un podcast, c'est dur à découvrir, puisque sur les applications de podcast, il faut connaître le podcast pour aller le chercher. Donc, n'hésite pas à le partager, à l'envoyer par mail, à le diffuser sur tes réseaux sociaux, je ne sais quoi, faire des écoutes collectives dans ta boîte, et surtout, nous raconter ce que vous...
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
On avait pensé. Alors, Damir, tu vas nous parler du futur.
Oui, je viens du futur pour vous rapporter la grande nouvelle. C'est une nouvelle à laquelle on s'attendait un petit peu. C'est Pascal, je suis désolé si je le prononce mal. PASQAL, qui est une société française qui travaille dans le quantique, donc cette grande technologie qui nous sauve tous, qui avait, il y a quelques mois, c'était un mois et demi, avait lancé en fait son service qui était disponible au travers du cloud Azure, et ils avaient déclaré qu'ils le feraient sur un cloud français sous peu. Et effectivement, ils ont commencé à le faire chez OVH. Pour l'instant, c'est pas encore ouvert au public, mais ça va l'être dans le futur. Donc pour le coup, vous pouvez consommer des ressources quantiques qui sont créées par cette société directement au travers de la plateforme cloud d'OVH. Donc c'est quelque chose qui est intéressant, plus pour l'aspect, on va dire, pas plus pour l'aspect, c'est intéressant que pour l'aspect R&D ou si vous avez vraiment envie de tester des trucs très chelous. Faut savoir que le quantique, c'est pas encore quelque chose qui est exploitable. Hein. Vous n'allez pas vous dire demain, mon application va reposer que sur du quantique. C'est bien pour globalement, soit vous faites de la recherche, soit vous essayez de lever des fonds en startup et vous avez mis tous les mots bullshit dans une phrase. Mais à part ça, dans le quotidien de notre travail, c'est pas encore quelque chose qui nous impacte directement. Et c'est quelque chose qui a encore qui t'attonne un peu, mais ça va sûrement permettre en fait de, à travers le cloud de permettre la disponibilité de ce type de matériel au travers du cloud va permettre, je pense, à pas mal d'entreprises qui veulent pousser de la R&D ou qui travaillent vraiment sur des use cases très spécifiques ou même à des scientifiques de pouvoir en fait faire des tests, des choses comme ça pour moins cher que d'avoir ce matériel, sachant que c'est un matériel qui est très cher vu que c'est un matériel de recherche. Et pour le coup, de tester des nouveaux programmes et de nouvelles choses. Et ça va permettre sûrement de développer la filière. C'est pas les premiers à le faire, mais c'est intéressant que ce soit au travers d'un cloud français par une société française. Le symbole, on va dire, est assez beau. Après, derrière ça, moi, je suis quand même curieux parce que ça fait maintenant, 2-3 ans que OVH intègre des gros services et des choses diverses et variées à son cloud. Et moi, alors, pour être honnête, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas utilisé de l'OVH, ça fait quasiment un an, un peu moins quand même, ça fait 7 mois. Mais quand je l'ai utilisé, j'avais souvenir de quelque chose où globalement, c'était pas très bien intégré, il manquait de cohérence, et ça partait un peu dans tous les sens, où vous aviez des onglets, où vous compreniez pas trop la différence, etc. Et là, ça m'inquiète un peu de voir qu'ils partent sur des trucs très pointus et assez niche au final, qui vont intéresser même pas 1% de leurs clients. Moi, je doute que ça intéresse plus d'1% des clients d'OVH. Je comprends pas trop, ouais, qu'ils vont encore ajouter un truc en plus, un service en plus, qui va pas être beaucoup utilisé, qui sert juste plus d'effet d'annonce. Donc là-dessus, je suis un peu dubitatif, parce que comme je le disais, ça reste quand même quelque chose qui est plus du laboratoire ou de la R&D très poussée. Donc ouais, là-dessus, j'aimerais bien votre avis, savoir un peu ce que vous en pensez, est-ce que vous en attendez quelque chose, on sait jamais, peut-être que vous faites du quantique en secret et que vous nous le cachez, que vous êtes en train de créer l'algorithme révolutionnaire. Donc du coup, toi Christophe, t'en penses quoi? Toi qui adore notre cloud souverain.
Moi je pense que si j'avais 1% des clients OVH, je serais content. Déjà. Ce que j'en pense, c'est si ça permet de démocratiser la recherche sur le quantique, sur l'ordinateur quantique, pourquoi pas. J'avoue, je suis un peu loin de tout ça parce que c'est un peu trop éloigné de ce que je fais. Mais... ce que tu as soulevé, c'est pas, c'est intéressant parce que en effet, je me fais la réflexion. En plus, j'ai appris très récemment qu'OVH était en train de supprimer la plupart de ses marques, donc Il Me Suffit, Soyoustart, etc. Alors qu'en fait, je trouve que ce serait vraiment intéressant pour eux d'avoir de fortes marques et des marques très spécialisées. Nous, c'est ce qu'on développe avec nos services en ligne. On crée des marques et on vend pas tout sous la marque Lidra. Hein. Frogit, c'est une marque. Boîte à outils, c'en est une autre. Et je trouve étrange qu'OVH intègre tout et intègre tout dans sa console, etc. Alors qu'en fait, il pourrait créer des marques fortes, bien dédiées, bien ciblées, avec un marketing très ciblé et un discours très, très raccord avec leur clientèle qui ne sont pas la même que celle d'OVH, par exemple. Je reste dubitatif quant à l'approche commerciale. En termes tech, je ne sais pas. Honnêtement,
je pense que là-dessus, ils essaient juste de raisonner plus en termes de plateforme et de forcer à attirer des gens et des services sur leur plateforme principale. Après, est-ce que ça va être bien fait? Pour être honnête, j'ai des doutes parce que quand on a connu les API et les UX de chez OVH, il y a des problèmes récurrents, malheureusement. Et pour le coup, là-dessus, je pense que ça va pas aller en s'améliorant. Mais je sais que j'ai un peu dérivé du sujet, mais l'ouverture me paraissait intéressante sur cette priorisation des nouveaux services. Pour le coup, René, toi, t'as des avis là-dessus?
Non, je pense que je suis peut-être trop vieux, mais j'avoue que l'ordinateur quantique, non, je connais pas du tout le sujet. Après, ben, je vais donc botter un peu en touche. Tout comme Christophe, voilà, je pense que c'est intéressant pour la recherche et tant mieux, mais voilà, je préfère pas trop dire de bêtises, donc je vais m'abstenir.
Alors moi, pareil, hein, je suis clairement pas la cible de ce type de service. En revanche, je pense que tu l'as souligné, Damien, en disant ouais, il y a l'effet d'annonce, mais c'est justement, je pense, c'est cool de se dire que ils sont innovants sur des trucs pointus comme ça et tout. Après, effectivement, peut-être que c'est tout claqué derrière, j'en sais rien. Hein. Mais en tout cas, c'est quand même cool de se dire qu'il y a un acteur français qui arrive et qui peut proposer ce genre de service comme ça.
ça fait un nouveau truc de dispo. Je sais pas à quel point c'est quelque chose qui est disponible facilement ailleurs non plus, mais si c'est pas le cas, en fait, c'est une super... c'est une super démonstration de dire voilà, en fait, t'as besoin de tout ça. Nous, t'as juste à mettre ta CB et c'est dispo, quoi. Et du coup, le côté show-off me paraît pas négligeable, surtout dans le milieu de la tech où des fois on fait pas forcément les choses les plus utiles ou malines, mais les trucs aussi qui permettent de montrer que.
Non, mais du coup, pour donner un peu de contexte sur l'état du marché. Là-dessus, alors je connais pas par cœur le marché, je vais en dire des bêtises, mais ça fait quelques années maintenant qu'il y a eu un peu cette hype qui a été poussée au début par les recherches de Google, IBM, qui expliquaient qu'ils annonçaient, là aussi avec des gros effets d'annonce, qu'ils travaillaient sur le quantique parce que c'était le futur, etc. On va pas se le cacher, c'est un futur qui est assez lointain, hein. Ça, n'espérez pas que demain votre téléphone soit quantique. C'est plus de ce que je comprends, dans 10-15 ans, qu'il faut espérer des choses un peu concrètes. Et pour le coup, ça va faire, on va dire, 3 ou 4 ans maintenant qu'il y a des gros services cloud qui offrent, au travers d'API ou autre, l'utilisation de quantique. Et en général, c'est surtout pour ça, c'est pour aider les chercheurs ou les personnes qui sont juste un peu, qui sont très curieux et qui ont envie de pousser le truc, à savoir que c'est assez particulier de développer pour du quantique, hein. C'est vraiment une manière de penser qui est très, très différente. Et j'avais regardé un peu, un coup, pour la petite anecdote, il faudrait que je le retrouve. J'ai abandonné au bout d'une demi-heure, j'avais ma tête qui a explosé, il y avait trop de... Ça change tout paradigme, donc c'est super intéressant, mais ça reste pas le truc le plus accessible. Et du coup, en tout cas, que ça soit disponible par le cloud, ça permet au moins, on va dire, à des chercheurs et à des labos de pouvoir tester des petites choses pour sans avoir ce gros investissement. Mais c'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est pas une révolution. Mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est quand même d'avoir une solution qui soit... totalement française au niveau de la stack, bon, sauf le matériel, il doit y avoir des choses importées. Mais on va dire une grosse majorité de la stack qui soit française, ça reste quand même assez intéressant d'un point de vue, on va dire, souveraineté de recherche.
Eh bien, on va parler de Python, je crois, n'est-ce pas, René?
Oui, un tout petit peu. Donc, il y a une nouvelle qui est sortie, qui a fait un petit peu de bruit sur Twitter. C'est un outil Python qui est sorti par Anaconda, et en fait ça s'appelle PyScript. Et ce que ça permet de faire, c'est d'embarquer du Python côté et le faire tourner sur les navigateurs, et donc d'embarquer ça dans du HTML. Et il y a déjà quelques démos qui sont proposées où on peut embarquer du code pour afficher une date, utiliser des dépendances Python pour afficher des graphiques, ou carrément faire la REPL, donc la ligne de commande Python, directement dans un navigateur. Alors, donc ça, bon, après, voilà, ça s'est un peu enflammé sur Twitter entre les communautés Python et JavaScript, avec les communautés Python qui espèrent que qu'on va pouvoir se passer de JavaScript pour faire du front. Je pense qu'on n'en est pas là. Et puis, vice versa, les communautés JavaScript pour défendre et dire que ça servait à rien. Donc ça, c'est pas forcément ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce que ça peut amener. Et puis surtout, moi, ce qui m'a intéressé, c'était un peu de savoir comment ça fonctionnait derrière. Et en fait, c'est comment ça fonctionne. En fait, c'est des choses dont j'avais déjà un peu parlé, c'est que c'est du WebAssembly. Donc en fait, WebAssembly, c'est une technologie pour pouvoir faire du bytecode, on va dire, pour la JVM embarquée dans les navigateurs. On peut aussi, petit rappel, il y a aussi quelque chose qui s'appelle WASI. Qui permet aussi de proposer de faire tourner des extensions pour faire tourner ça en mode, on va dire, console sur différents environnements. Et donc en fait là, ce qui s'est passé, c'est que donc c'est un projet qui s'appelle Pyodyne, pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne, qui a en fait pris l'interpréteur Python, qui est écrit en C, c'est Python, et donc qui utilise mscripten, qui donc permet de produire du WebAssembly. Et donc on se retrouve avec ce bel WebAssembly. Du coup, ça a fait un interpréteur en WebAssembly qui peut donc tourner dans un navigateur. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Et donc dans les notes de l'épisode, j'ai partagé. Enfin, vous trouverez les liens qui expliquent un peu plus en détail et, comment ça fonctionne, comment ici sont pris. Et voilà, je pense qu'on commence à avoir une certaine le sujet WebAssembly commence un petit peu à se développer de plus en plus. Et pour terminer, voilà, il y a aussi un lien. Alors, j'ai pas regardé la vidéo pour le moment parce qu'elle est un peu longue, elle dure 3 heures, mais il y a eu au Devox, il y a eu présenté la révolution WASM, le titre de la conférence qui a été fait par Philippe Charrière et Laurent Dauguin. Donc j'ai pas regardé pour le moment, mais je pense que c'est assez intéressant si pour comprendre un petit peu ce que WebAssembly, les évolutions qu'il y a eu et comment c'est ce qu'on va peut-être pouvoir en faire prochainement. Voilà, je vous laisse un peu la main, voilà si ça vous inspire ou pas.
Moi, je veux la liste des meilleurs tweets où les gens s'insultent entre JS et Python sur le sujet, parce que c'est clair que j'ai pas suivi ça, mais alors ça doit être costaud.
Bah, c'est stérile comme toute la guerre comme les guerres entre les langages, quoi. Voilà, donc c'est pas forcément ce qui est intéressant. Après, je pense que, pour rajouter un petit quelque chose, c'est que ce qui est intéressant, c'est que Python est beaucoup utilisé dans le machine learning, etc. Et donc, pour les gens qui utilisent ça, je pense que ça a un intérêt de pouvoir faire tourner ça dans un navigateur pour de futures applications. Donc, aujourd'hui, ça reste quand même un projet très, très récent qui n'est pas encore GA. Hein. Je pense que c'est une bêta ou une alpha. Moi, j'ai trouvé ça... sur le principe, je trouve ça intéressant de comment ça fonctionne et ce qu'on peut en faire en principe.
Mais en particulier coup, ça, de WebAssembly. En WebAssembly, c'est du Java derrière, du JavaScript. Non,
WebAssembly, pour rappel, non, c'est un bytecode en fait. Donc ça va être c'est un langage machine, c'est quasiment comme du binaire qui va être interprété par la machine. Comme quasiment des ops code pour un processeur.
Je me suis mal exprimé, je voulais dire. Du coup, c'est très rapide. WebAssembly, il me semblait avoir lu ou avoir cru comprendre qu'il passait par du JS, non ? Il n'y a pas une histoire comme ça ?
Non, alors en fait, WebAssembly, tu peux en produire à partir de différents, aujourd'hui, de beaucoup de langages. Donc, tu peux en produire à partir du C. En utilisant mscripten, donc c'est un logiciel qui permet de transformer un code C. Il faut un petit peu adapter quand même, mais transformer un code C en WebAssembly, tu peux en produire à partir de Rust. Je pense que c'est les plateformes les plus matures, mais aujourd'hui, avec un autre outil qui s'appelle TinyGo, tu peux aussi en produire à partir de Go. Donc en fait, à terme, plus ou moins, tous les langages vont être capables de, entre guillemets, compiler vers cette cible-là, et donc de pouvoir faire tourner des applicatifs dans le navigateur, mais aussi en dehors avec OASI.
Ouais, non,
mais je ne veux pas rentrer là-dedans.
Du coup, ça va être... J'ai un aller voir l'épisode. Compris le truc, et moi, je suis compris qu'il a... Qu'en gros, Python après était retransféré, interprété par du JS, qui lui était interprété après et compilé en WebAssembly. Donc ok, donc c'est un peu plus intéressant quand même que ce que j'avais compris. À voir ce que ça va ouvrir comme possibilité. Non, n'en reste pas moins que ça reste du web, donc à mon avis, tant que ça se développe, ça risque de prendre les mêmes habitudes mauvaises que le reste des langages qui existent. Ben c'est intéressant.
Moi, ce que je vois, c'est que du coup, de plus en plus, on va mettre des choses dans notre navigateur. Notre navigateur, il va finir par, à force, se substituer au système d'exploitation. On ne verra plus que le navigateur. En tout cas, je pense que certaines grosses boîtes veulent aller par là. Peut-être pour cloudifier nos applications. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, on va... Si on tire le fil, on risque d'avoir plusieurs langages, en effet, dans nos navigateurs, et donc des langages adaptés à certains types de programmes. Parce que le Python est adapté à certains types de programmes auxquels JavaScript n'est pas adapté, Go aussi, etc. Et donc, on va pouvoir coder des applications qui vont tourner dans le navigateur avec le, bah, avec le langage le plus adapté à ce qu'on va vouloir faire, parce que les fans de JavaScript ont beau dire que JavaScript, c'est super, il y a forcément des trucs... auquel JavaScript n'est pas adapté.
Ouais, puis ça permet aussi de... Enfin, je pense que c'est pas forcément... Voilà, ça permet de réutiliser aussi des codes qui ont été faits dans d'autres langages. Donc c'est vraiment l'intérêt, en fait. C'est vraiment de pouvoir faire de la réutilisation des librairies graphiques, par exemple, pour du traitement d'images qui ont pu être créées en C, ben, peuvent facilement se... Enfin, facilement. Voilà, avec un peu de travail, mais elles peuvent facilement être mises dans, enfin, recompilées en WASM et utilisées dans le navigateur.
Je pensais aussi à un dernier truc, c'est le côté éducatif, parce que mine de rien, quand tu vas coder quelque chose, si tu es novice et que tu es sur ta machine, tu pourrais arriver à faire des bêtises, alors que si tu codes et que tu exécutes des trucs dans le navigateur, t'as le navigateur qui va te protéger. Alors bien sûr, certains me diront, bah ouais, mais tu peux coder dans un conteneur Docker, etc. Oui, mais sauf que quand tu débutes, que tu codes, t'es peut-être pas forcément capable d'utiliser un conteneur Docker. Donc, Moi, je vois l'idée, en fait, c'est de pouvoir aussi encapsuler ce que tu fais dans un laboratoire.
Après, t'as des runtime un peu plus simple que le claquer dans ton navigateur. Mais derrière, je pense que ce qui est intéressant, ils ont mis beaucoup en avant la réutilisation des librairies, notamment de visualisation de data. Mais ce qui me semble aussi intéressant, et c'est une approche plus pragmatique et ça dépend des personnes, mais moi je considère que même s'il y a des langages qui sont nativement plus adaptés pour quelque chose, je pense aussi que c'est impossible de maîtriser tous les langages. Et typiquement en tant que tech, même en tant que DevOps, de temps en temps on a affaire à un peu de code, même du côté Ops. Si on connaît qu'un langage, par exemple le Python, ça peut être sympa si on a besoin de dépanner, de faire un truc sur du web ou quelque chose comme ça. Ça nous permet de le faire sans pour autant faire quelque chose de dégueulasse en JavaScript qu'on comprend à moitié. Donc ça me peut, à mon sens, ça me paraît intéressant là-dessus aussi, de pouvoir du coup se dire qu'avec du Python, si je le connais bien, je peux dépanner vite fait sur un petit truc web de lequel j'ai besoin.
Juste pour rebondir sur ce que tu disais, Christophe, en fait, c'est une des forces de WebAssembly, en fait, c'est que c'est sandboxé. Du coup, effectivement, voilà, ça évite certains problèmes de sécurité. Et l'autre utilisation de ce sandboxing, souvent, c'est un des intérêts, c'est de faire des plugins pour les applications. Donc, il y a pas mal d'applications qui peuvent être étendues avec des plugins qui sont en WebAssembly. Et du coup, aussi, pour avoir cette notion de sandboxing et de sécurité très contenue, et donc éviter que un plugin fait par un éditeur tiers vienne tout péter ou vienne faire des mauvaises interactions. Voilà, c'est un des usages qu'on voit apparaître en fait depuis pas mal de temps.
Eh ben merci, et on l'attendait tous. C'est maintenant habituel. On a une section les outils à connaître dans Radio DevOps. Donc, on va vous partager plein d'outils et tout le monde s'y est mis cette fois-ci. Et René, tu vas nous parler d'un premier outil.
Ah, alors, c'est moi qui commence, ok, bah, pas de souci. Je vais vous parler d'un petit outil. Alors, c'est pas forcément lié au DevOps, c'est plus pour de la productivité personnelle. C'est un outil qui s'appelle, qui est fait par les gens qui font PopOS, donc c'est System 76, une entreprise aux États-Unis qui vend des ordinateurs compatibles Linux, et ils ont fait, on va dire, leur environnement, enfin leur distribution, on va dire, qui s'appelle PopOS, et il y a un des outils qui s'appelle PopShell, et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que moi, depuis pas mal de temps, je m'étais un peu intéressé aux environnements graphiques comme U3 et des mois, je ne trouve plus le terme. Voilà, voilà, qui font du tiling. En fait, l'idée, c'est que quand on ouvre des fenêtres, c'est le Windows Manager qui vient positionner les fenêtres, on va dire, au mieux. Et on n'a pas besoin de déplacer les fenêtres. Et je trouvais ça intéressant, mais j'ai jamais sauté le pas pour aller sur i3 parce que ben voilà, j'étais assez content avec mon environnement Gnome. Et voilà, donc et en fait cette extension là, donc ce Gnome Shell, enfin ce Pop Shell là, c'est une extension Gnome qui arrive et qui vient rendre un peu ce comportement là. Alors c'est probablement peut-être pas aussi bien qu'un vrai tiling Windows Manager, mais ça donne quand même une approche assez sympa et ou une bonne idée de ce que ça fait. Et du coup, je me suis mis à l'utiliser et voilà, je trouve ça plutôt pratique. Donc voilà, pour les gens que ça intéresse, ça s'installe très bien et faites un essai. Moi j'ai trouvé ça sympa.
Bien, parce que pour la petite histoire, j'avais testé i3, j'avais plutôt bien aimé. J'avais un gros souci avec et un truc qui moi me perturbe, alors ça c'est mon côté un peu, on va dire un peu chiant, c'est que ça me semblait vachement dur d'avoir quelque chose de cohérent à chaque fois. En fait, alors j'aimais bien la notion que tout est séparé et chaque truc c'est un peu le petit programme à chaque fois, c'est-à-dire le configurer, ça voulait surtout dire le rendre cohérent avec le reste. Et moi ce que j'aime bien avec Gnome, c'est que tout est quand même globalement cohérent, les apps fonctionnent bien même si c'est un peu lourd par moment, ils sont quand même pas mal améliorés là-dessus, donc je trouvais ça plutôt agréable à utiliser. Donc là, si je peux combiner le meilleur des deux mondes, ça me va.
Moi, je connais pas du tout, donc je suis pas prêt encore à passer le pas. De toute façon, je suis pas sur Gnome, moi je suis sur Budgies. Donc je ne sais pas si ça va s'adapter.
Moi, je ne connais pas non plus, mais je crois que je fais partie des gens un peu réfractaires au changement là-dessus, où j'ai mes patterns et je crois que j'aurais du mal à m'en sortir. Il y aurait un temps d'adaptation, en tout cas, pas négligeable.
Il faut toujours s'adapter aux nouveaux outils. Bah, puisqu'on est à parler de Linux...
Oui, la dernière fois, je vous avais parlé de Ubuntu, du coup, c'était 22.04 qui sortait. Aujourd'hui, c'est au tour de Fedora de sortir en version 36, donc du coup, qui est la distribution plutôt orientée à workstation / laptop de nos amis de chez Red Hat. Donc du coup, c'est une distribution qui marche très bien. Alors, pour être honnête, j'ai passé vite fait le patch note, mais j'en ai pas retenu grand-chose, que j'utilise pas du tout... pas du tout cette distribution, mais il y a pas mal de choses qu'il faut qui sont upgrade comme d'habitude. Et ils sont assez rapides pour mettre les mises à jour chez Fedora. Si jamais vous avez jamais essayé, ça peut être intéressant. Ils sont assez réactifs, c'est plus stable et c'est plutôt très propre. J'avais testé, j'ai rarement eu des problèmes. Donc si vous cherchez une distribution pour votre PC qui soit stable, efficace et qui soit possiblement vous aimez peut-être pas tout ce qui est APT, etc., Debian World, Fedora peut être une très bonne alternative, et cette version 36, le bon moment de vous y mettre.
C'est pas possible, tout le monde aime Debian, tout le monde aime Ubuntu, non ?
Il y a des infiltrés par ici.
Oui.
il y en a un qui va dire non, là.
Il y a des infiltrés, ouais.
Et un désavantage aussi d'utiliser Fedora, c'est que... Enfin, moi, c'est pour ça, à l'époque, que j'avais basculé. C'est que si dans votre entreprise, vous utilisez beaucoup de CentOS, alors CentOS, il y a eu un petit peu, ou des environnements basés sur Red Hat Enterprise Server, ça permet de voir un petit peu ce qui va arriver en avance de phase. Donc ça, c'est un côté intéressant. Et oui, je suis utilisateur Fedora 35 et je trouve que ça marche plutôt bien.
C'est sûr qu'en effet, quand dans ton entreprise, tu administres des serveurs Red Hat Linux, ça a tout son intérêt. Hein. Tu perds pas tes habitudes. Hein. C'est sûr, tu passes pas d'une distrib à l'autre.
Oui, oui. Y a ça. Puis souvent, par exemple, le package manager, il a changé plusieurs fois. Ça permet de déjà de te mettre un petit peu à la page sur le nouveau package manager. Alors après, c'est pour le bien, pour le mieux ou pour le pire, ça, les gens, je les laisse décider. Mais au moins, tu peux déjà t'y faire un petit peu sur ton laptop en avance, et quand ça arrive sur les serveurs, t'es pas complètement perdu. C'est voilà, pareil sur les fichiers de conf, les choses qui peuvent bouger un petit peu, ça permet d'anticiper.
Erwan, je vais te passer la parole, tu veux nous parler d'un autre outil.
Oui, alors ça va être très rapide. Hein. La dernière fois, avec René, avait évoqué l'outil JLS pour avoir un espèce de viewer de JSON sur votre machine plutôt sympa, avec plein de trucs pratiques pour rechercher, pour collapse, etc. Et en fait, un peu dans la même veine, mais cette fois-ci, via une interface, enfin c'est sur un site JS qui s'appelle JSON Hero. Et en fait, ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez de la même façon uploader ou copier un JSON, et en fait il va en faire une interprétation hyper dynamique, hyper visuelle, et surtout vous pouvez le partager via des liens via un lien, un permalink, et alors attention, hein, ne mettez pas n'importe quoi, uploadez pas n'importe quoi sur ce truc là mais par contre, ce qui est quand même très pratique, c'est que du coup, partager du JSON, des fois c'est un peu pénible. Là, partager un truc comme ça où il y a tout un tas de petits repères visuels très très sympathiques, je trouve que c'est pas mal. C'est full open source, vous pouvez installer votre propre version dans votre infra, bref, un petit outil pas cher.
Ça m'a l'air bien sympa. C'est cool d'avoir un outil comme ça qu'on peut héberger. C'est vrai que personnellement, je suis jamais trop confiant de taper les fameux parseurs sur le net et d'aller voir directement dessus. On sait jamais. Même s'il n'y a pas de secret quand même dans les JSON, mais je suis pas ultra fan de faire ça. Il peut y avoir quand même des noms, des prénoms, des données qui peuvent derrière servir. On sait jamais. Donc là, c'est vraiment cool que ce soit hébergeable et que ce soit open source. C'est une bonne chose.
Eh ben moi, je vais vous parler d'observabilité, puisqu'on a fait un épisode de Radio DevOps sur la supervision. Là, je vais vous parler de Cygnos. Cygnos, c'est un APM open source et libre. Donc un APM, ça sert à quoi ? Ça sert à stater vos applications, à voir les performances de vos applications. Donc c'est des outils souvent qui se pluguent en plus sur votre supervision. Alors les APM les plus connus sont New Relic et Datadog. Et ben là, c'est une alternative justement à ces solutions propriétaires. Et j'avoue que les captures d'écran qu'ils publient sur leur GitHub sont assez sympas. Et c'est basé sur, si j'ai bien suivi, OpenTelemetry. Donc pour l'instant, ils supportent le Java, le Python, Node.js et Go. Donc ça a l'air assez intéressant, et ils ont une section aussi comparaison. Donc ils se comparent à Prometheus, c'est quoi les avantages et les inconvénients de chaque partie, à Jagger aussi, qui a un autre outil APM, je crois. Et c'est vrai que les APM libres, j'avoue que je n'en connais pas des masses. Je ne sais pas si vous en connaissez, à part évidemment Cygnos qui vient de popper dans mon fil Twitter il n'y a pas si longtemps.
Alors il y a Elastic APM. Alors c'est après, ça, aujourd'hui, la licence, je sais pas trop où on en est, mais il n'y avait pas si longtemps, c'était open source.
Bah, c'est pas sur leur licence propre à eux que... en fait, il y a juste Amazon et Google qui n'ont pas le droit de réutiliser le truc comme ça. Je me souviens plus du détail.
Ouais, c'est ça, ouais. Ça doit être en SSPL et en Elastic licence. Mais ce n'est pas des licences reconnues.
C'est vrai qu'on n'avait pas déclenché assez de débats des combats de licences. mais du coup, non, c'est cool qu'il y ait une alternative.
Ouais, on va éviter.
Exactement. Et en plus, ça s'héberge apparemment facilement. Il faudra tester. Ah ben, je vais relaisser la parole à René.
Oui. Un petit outil pratique en ligne aussi. Je ne sais pas si vous avez déjà joué avec ça, mais moi j'ai eu on peut faire des schémas de validation pour le JSON, un peu comme on le faisait sur le XML avec les DTD. Donc en gros, on peut spécifier avec un fichier quels sont les champs qui vont rentrer et le type des champs. Et donc bah, c'est possible de faire la même chose avec du JSON. Et la problématique de ça, c'est que parfois c'est un petit peu compliqué à contrôler et à être sûr de que le schéma est bon et en fonction des entrées qu'on va faire. Et donc il y a un site qui s'appelle jsonschemavalidator.net, et je dois avouer qu'il m'a beaucoup aidé dans les dernières semaines pour justement m'assurer que mes schémas étaient bons et qu'ils faisaient bien ce qu'ils devaient faire. Donc voilà, si vous êtes confronté à ça, ça aide vraiment. Donc voilà, je pense que c'était sympa de le mentionner ici.
Je vais me permettre de rajouter du coup un petit truc, c'est que JSON Hero gère ça.
Ouais,
il te permet de générer le schéma de validation pour un objet JSON que tu lui envoies. Donc, alors, j'avais pas fait le rapprochement, mais effectivement, c'est quand même hyper pratique. Tu switches d'onglet, il te file le schéma, et donc après, tu peux l'intégrer dans tes trucs de test pour tout valider.
C'est vrai que ça peut être bien pratique. Ah, on valide YAML automatiquement, mais JSON, on en fait peu, donc on le valide pas forcément, mais c'est des petits outils pratiques du coup. Si vous avez la même chose pour YAML, moi je suis partant.
Eh bien, si l'un de nous en trouve un pour YAML, je pense qu'on en parlera. Eh bien, Damir, tu vas clôturer cette section des outils
oui,
avec...
Oui, NeoVim est passé en version 0.7, donc ce qui est relativement rapide comparé au rythme de développement de Vim. Donc, on peut dire qu'ils sont sur la voie express et ça apporte quand même pas mal de petites choses, notamment la coloration... syntaxique un peu plus avancé qui est notamment totalement intégré. Quand je dis coloration syntaxique, c'est vraiment avancé avec des plugins et des extensions qui sont possibles pour certains langages, etc. Donc c'est totalement intégré sans extension. Il y a le moteur pour détecter des changements, etc. qui est amélioré. Et il y a plein d'autres choses, notamment le fait de pouvoir exécuter le Luna, qui est du coup maintenant le langage de configuration et de plugin, en remote. Donc ça va offrir plein de possibilités assez marrantes à base de NeoVim Cloud. Donc on peut faire des trucs très fun. Mais voilà, donc c'était pour moi une bonne occasion de remettre en lumière cet outil. Personnellement, alors pour la petite histoire, moi j'ai migré sur NeoVim il y a plus d'un mois. Ça se passe très bien, j'ai écrit un article dessus que vous pouvez lire si vous êtes intéressé. Mais je suis un très grand utilisateur de Vim à la base, et pour le coup j'avais hésité longtemps à sauter le pas, et je regrette pas du tout. Et ça peut vous donner aujourd'hui un environnement ultra efficace, léger, et qui est totalement moderne. Donc du coup vous n'avez pas juste un éditeur de code, vous avez aussi la compression, vous avez la documentation intégrée, vous avez plein de choses, et ça c'est vraiment top. Et qu'un terminal peut être même run en remote.
Tout dans un terminal.
Donc, quand des gens vous montrent VS Code là dans Cloud, vous pouvez dire moi je peux le faire dans Cloud aussi au travers d'une session SSH avec un petit, vous avez même des fenêtres, et là c'est magique.
Exactement, merci. C'est vrai que j'ai abandonné Vim au profit de Atom à l'époque et puis maintenant VS Codium. Je ne suis pas encore prêt à y revenir parce que je suis bien confortable avec VS Codium.
Et juste pour faire un petit lien avec la news d'avant, c'est la version 0.7 arrive dans la Fedora 36.
Il y a un méta-univers.
J'ai rien à ajouter. Je dirais juste que lisez l'article de Damien. Moi, ça m'a presque donné envie de tester. Mais ça fait partie des sujets sur lesquels je crois que je suis un peu psychorigide et j'ai du mal à changer. Mais par contre, du coup, j'ai compris pourquoi tu avais fait ça. Enfin, ce que tu y retrouves et que tu as trouvé d'intéressant et de plus productif. Mais je sais pas. J'ai peur que le temps de switch il soit trop long et je vais rester pour le moment.
C'est gentil, merci.
Habitudes. Mais lisez l'article, il est bien. Tiens, on profite pour te le dire du coup.
Après, c'est totalement compatible, donc t'es absolument pas perdu. C'est-à-dire tout ce qui marche dans Vim marche dans NeoVim. De base,
parce que j'explique.
La seule chose qui change, c'est que t'appelles NVim et entre guillemets, ça marche exactement pareil. Donc la transition pour quelqu'un qui utilise vraiment minimum, c'est-à-dire sans plugin, etc., elle est transparente.
C'est rare d'utiliser sans plugin, sans avoir un IDE à côté ou autre chose, parce que aujourd'hui, on fait tous du code. Plus ou moins, que ce soit du Terraform, du Plunemi, autre chose, donc c'est vrai que c'est très vite limité. Mais dans tous les cas, si vous voulez le tester, il est compatible 100% avec ce qui existait sur Vim, donc vous pouvez même prendre votre fichier de configuration Vim, le mettre sur NeoVim, ça va fonctionner. Vous profiterez pas de certains avantages et tout ça, mais ça j'en parle plus dans l'article, mais vous pouvez au moins vous faire les mains dessus et voir si c'est intéressant ou pas.
Eh ben merci. Et à toi, cher auditeur ou auditrice, si tu nous écoutes et que tu as tenu jusque-là et que si tu veux venir en discuter, eh ben le mieux c'est de nous rejoindre sur la communauté des compagnons du DevOps, qui est un forum où on discute tous, puisqu'on est tous dessus, tous les animateurs du podcast y sont. Donc, viens t'inscrire, c'est un des liens en description. Et moi, je vais laisser nos chers auditeurs et je vais leur dire à bientôt et je vais vous laisser le mot de la fin à tous les trois. Et est-ce que je tente ? Oui, je tente. Je vais commencer par René.
Ouais, je vais rester classique. Ben, j'espère que les sujets vous auront intéressé. On a été un peu plus dans le développement pour cet épisode-là. J'espère que vous m'en voudrez pas parce que c'est un peu moi qui ai milité. Et voilà, ben, je vous souhaite une bonne écoute et au prochain podcast. Et j'espère vous retrouver au prochain podcast.
Bah, du coup, on a eu l'occasion de revenir sur un incident.
Allez, Damien, à toi la suite.
Temps. Et on a à nouveau parlé de ce magnifique domaine qui est la communication. Donc le DevOps, c'est de la communication, la gestion incident, c'est de la communication, notre métier, c'est de la communication. On nous a menti ! Et je vous laisse sur cette réflexion.
C'est vrai que la communication est super importante dans le DevOps. Et Erwan, c'est toi qui as le mot de la fin de la fin.
Eh ben, ce sera vert, parce qu'il fait très très chaud là au moment où on enregistre.
Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode, plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des Compagnons du DevOps. À bientôt! La balado-diffusion des Compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.